Hey boy, je regarde ma liste de sujets, puis garde, je pourrais fermer les yeux, puis piger dans le tas, comme on dit, là. Pige dans le tas, souvenez de...
Pige dans le lac.
Pige dans le lac.
Pige dans le lac. Ouais. Je pourrais faire un pige dans le lac avec Donald Trump, honnêtement. Gars, je pourrais piger, il veut fermer les réseaux sociaux. Oui. Manquez pas, là. Il y en a peut-être qui vont manquer d'air, mais c'est pas des faces, là. Trump a dit, les réseaux sociaux, on va les fermer. Alors, bon... il s'est moqué également de son adversaire Joe Biden avec son masque. Il a parlé de la fermeture des frontières. Il a parlé de... Bon. Fait que bref, on va aller faire un petit tour aux États-Unis. J'espère qu'on aura le temps pour aller au Brésil puis ailleurs un peu. Normalement, on parle de ce qui se passe partout dans le monde avec mon prochain invité, mais juste avec les États-Unis puis Trump, on risque d'en avoir pas mal. On rejoint notre expert en relations internationales, Éric Arsenault. Bonjour.
Bonjour Sylvain.
Alors, on va y aller tout de suite avec Donald Trump. Évidemment, il y a du stock. Commençons par sa dernière déclaration. Évidemment, les gens vont dire c'est une boutade, mais bon. Comment en est-il venu, Donald Trump, lui qui est tout le temps sur Twitter et les médias sociaux, à dire qu'il voulait fermer ça?
Ben en fait, le problème, on le voyait venir depuis déjà un petit bout de temps. Parce que comme tu l'as dit, Trump est un utilisateur compulsif de Twitter. C'est même dur de le suivre. Et c'est à se demander comment il trouve le temps dans sa journée de travail pour tweeter autant. Des fois, c'est des dizaines et des dizaines de messages par jour. Et tu le sais comme moi, Sylvain, bien souvent, c'est des messages qui sont de son cru. Mais ce qu'il fait également beaucoup, c'est qu'il relaie des gazouillis qui proviennent d'ailleurs. Alors, par exemple, des médias conservateurs, notamment de Fox News, qui est sa référence quand on parle d'information. Mais de plus en plus également, et surtout depuis le début de la pandémie, Donald Trump se met à relayer des thèses complotistes qui viennent des milieux d'extrême droite. Et tu as probablement entendu parler au cours des dernières semaines de cette histoire d'Obamagate, un scandale dont il dit que c'est pire que le Watergate et qui mettrait en scène Barack Obama. Bref, sans apporter aucune preuve, sans avoir de preuves substantielles autour de ces trucs-là. Et souvent, depuis... ça fait des années. Twitter s'est fait reprocher et s'est fait critiquer d'avoir une politique de deux poids, deux mesures avec le président américain. Parce que Twitter, dans ses politiques, rappelle souvent à l'ordre des utilisateurs qui bien souvent postent des publications qui sont soit racistes ou xénophobes ou mensongères ou des trucs de genre-là. Or, on le sait, Donald Trump, il lui arrive régulièrement d'envoyer sur Twitter des gazouilles qui sont erronées ou qui sont carrément mensongers. Et depuis déjà un bon bout de temps, on demande à Twitter de sévir contre le président américain, comme on le fait pour n'importe quel autre usager de Twitter. Et c'est finalement ce qui est arrivé hier. Et ce qui a mis le feu aux poudres hier, c'est que Donald Trump a relayé ou retweeté une publication qui accuse à mot à peine voilé un ancien politicien républicain qui était autrefois allié de Donald Trump, mais qui est aujourd'hui son ennemi juré, un ancien politicien républicain qui aujourd'hui travaille pour la chaîne d'information télévisée aux États-Unis, MSNBC. C'est Joe Scarborough. Et Donald Trump l'affuble depuis des années de toutes sortes de pseudonymes pas très très gentils. Il l'appelle Psycho Joe, pour te donner une petite idée. Et il a relayé hier un tweet disant à mot à peine couvert que Psycho Joe a assassiné une de ses collaboratrices il y a de cela quelques années. Ça n'a absolument aucun fondement, mais le fait que le président relaie cette information-là, ça donne de la crédibilité à cette théorie du complot qui est populaire dans les milieux d'extrême droite depuis quelques années, et notamment depuis que le fameux Joe en question est devenu un ennemi de Donald Trump. Et hier, l'époux de la dame en question, celle qui est décédée, l'époux de la défunte, a écrit au président de Twitter pour réclamer que ça cesse, en disant qu'il fallait réagir, puis que ça allait un petit peu trop loin. Et Twitter, hier, c'est la première fois que ça arrive, a finalement réagi en ajoutant au tweet de Donald Trump, en tout cas celui-là, un avertissement disant « vérifiez les faits ». Ce qui laisse, donc, quand on est capable de lire entre les lignes, là, ce qui laisse entendre que cette information-là est trompeuse. Et Donald Trump a pété les plombs hier, il a été carrément piqué au vif, il crie à la censure, et comme tu y faisais référence tout à l'heure, il a menacé de réglementer ou encore de fermer carrément des plateformes de réseaux sociaux sous prétexte justement qu'on brime sa liberté d'expression et celle des milieux conservateurs. Et évidemment, dans le contexte électoral qui s'en vient pour l'automne, c'est une décision où cette menace de Donald Trump pourrait avoir des conséquences importantes. Est-ce qu'il pourrait aller jusqu'à mettre sa menace à exécution? Là, ça serait gros un peu. Mais juste le fait qui laisse planer la menace et le doute, s'en dit long sur son degré d'irritation par rapport à la décision qui a été prise par Twitter hier.
On est tellement rendu habitué aux frasques de Donald Trump. Moi, j'aime ça des fois, ramener ça à notre échelle pour que les gens réalisent. Imaginez que le PM du Québec, là, Imaginez que le premier ministre du Québec décide, il envoie un tweet sans fondement, puis il accuse un tel du PQ ou de Québec solidaire. « Hey, toi, ça a l'air que t'as tué ta femme. » C'est incroyable qu'on en soit rendu là. Puis moi, je suis contre la censure. Je suis pas mal très favorable à la liberté d'expression. Ça a des limites, mais en général, je suis dans le camp de « il faut être le plus permissif avec la liberté d'expression ». Mais quand c'est des affaires de même, puis quand ça vient du président des États-Unis, ça amène toutes sortes de questions. Là, parce que là, Twitter s'en va censurer le président américain. C'est une fonction importante. Mais j'ai compris, là, s'il dit n'importe quoi, il n'est pas au-dessus des lois. Le président n'est pas au-dessus des lois. Mais ça va amener des drôles de débats. Est-ce qu'il y a eu... Tout ça, ça se passe pas mal hier. Est-ce que dans les dernières heures ou aujourd'hui, il y a eu des développements ou il y aurait eu de nouveau là-dedans, Eric?
J'ai jeté un petit coup d'œil sur son compte Twitter aujourd'hui, ouais, mais à part relayer là, certaines informations dans lesquelles il s'en prenait aux gens de Twitter puis qu'il criait à la censure et tout le reste, j'ai pas vu grand-chose de nouveau par rapport à ça. Puis je me permets d'ajouter à ce que tu viens de dire, c'est intéressant que, tu sais, Twitter a pas décidé de censurer le président, c'est-à-dire d'effacer les tweets litigieux en question, simplement de mettre un avertissement pour ceux et celles qui vont les lire pour dire « faites attention, ces informations-là sont sujettes à caution ». Sont à prendre avec des pincettes, vérifier les faits et vérifier les informations. Alors, déjà, à la limite, c'est comme si on lui laissait un petit peu plus de cordes qu'à d'autres utilisateurs de Twitter. Mais pour Donald Trump, c'est définitivement trop. C'est la goutte qui a fait déborder le vase hier.
Mais tu sais, on est au-delà de la diffamation. Tu sais, l'affaire d'Obama Gate, on verra, c'est vrai que là, il crée au scandale, puis on le voit, on n'a encore rien vu. Mais on verra bien. Juste de dire Obama Gate, ça peut être diffamant, mais on verra. Mais de dire que quelqu'un a tué, ben c'est pas sa femme, je pense avoir dit sa femme tantôt, là. Mais
non, en fait, ça se trouve à être une de ses ex-assistantes. Et il a été prouvé que la jeune femme qui était... Parce que ce qui a alimenté les soupçons, Sylvain, c'est qu'au moment du décès de cette jeune femme-là, c'était une femme qui était dans la fleur de l'âge, une athlète qui faisait des marathons régulièrement, des trucs de ce genre-là, tout ça, puis était tombée dans un escalier, puis était décédée. Et la rumeur qui circulait à l'époque, c'est que le politicien en question, le fameux Psycho Joe, aurait une relation avec cette jeune femme-là et qui aurait cherché à la cacher, cette relation-là, en le faisant disparaître. Sauf que l'autopsie a confirmé que cette jeune femme-là souffrait d'une malformation cardiaque, et c'est ce qui est à l'origine de son décès. Mais dans les milieux complotistes, et notamment d'extrême droite, et à partir du moment où ce gars-là s'est mis dans le camp adverse à Donald Trump, les théories du complot se sont mis à fuser sur le web.
Mais là, ça devient pas juste une offense envers la liberté d'expression, dans le sens où ça devient de la diffamation toute. Là, il court-circuite aussi le système de justice. S'il y a eu un meurtre, c'est le président américain. S'il pense que quelqu'un a tué quelqu'un, c'est à la police, c'est à la justice à faire son travail. Pas Donald Trump sur Twitter de régler ce cas-là. C'est en relayant ça, c'est comme si il donnait du crédit à ça. En tout cas, mettons ça de côté. Je veux que tu me parles un peu de la course, parce qu'on est en année électorale. Là. Joe Biden, on l'avait pas vu depuis un bout de temps. Là, il est sorti avec un masque, puis justement, ça a soulevé encore des critiques de Donald Trump.
Oui, effectivement. Trump en rate jamais une pour écorcher Joe Biden. Et cette semaine, c'est le fait que Joe Biden, et on se rend compte qu'aux États-Unis, t'as raison de le souligner, c'est comme si la campagne électorale avait été mise sur pause avec la pandémie. Ouais. Mais là, tranquillement, pas vite, là, les choses sont en train de reprendre. Et Donald Trump, lui, a jamais cessé, de toute façon, d'apparaître sur la place publique. Il profitait même de ses points de presse sur la COVID-19 à la Maison-Blanche pour transformer ça en espèce d'événement partisan. En tout cas, c'est plus ou moins à son avantage, là, mais il l'a fait quand même. Alors que Joe Biden, lui, depuis que la course à l'investiture démocrate à la mi-mars a été mise sur pause, il est complètement disparu de l'écran radar. C'était carrément éclipsé de la scène publique. Et ça lui avait d'ailleurs été reproché parce que des gens qui disaient, face à Donald Trump, qui en rate jamais une pour essayer de se mettre en évidence, il faudrait que Joe Biden également, malgré la pandémie puis malgré le confinement, se manifeste davantage et tout ça. Or, Biden, pendant deux mois, est resté chez lui au Delaware. Il avait fait aménager un petit studio dans sa résidence pour justement pouvoir faire des interventions sur les réseaux sociaux. Il a d'ailleurs fait quelques apparitions par vidéoconférence et des trucs comme ça, mais globalement, il est resté plutôt discret. Depuis quelques semaines, dans les milieux démocrates notamment, on incitait Joe Biden à sortir de son cocon, à se déconfiner dans un certain sens, mais sur la place publique et sur les médias, pour tenter notamment de répliquer à Donald Trump. Alors, cette semaine, ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'il a fait une première apparition publique lundi aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle le Veterans Day. C'est Ben, je dirais pas, c'est pas l'équivalent du jour du souvenir, mais...
C'est pas Memorial Day?
Exactement. Alors, c'est une journée qui permet effectivement d'honorer la mémoire des anciens combattants. Et on sait qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très important, puis on a beaucoup de respect envers les anciens combattants. Et lundi, donc, et c'était frappant, Joe Biden, finalement, est sorti pour une première sortie publique. Il est allé déposer une gerbe de fleurs devant un monument commémoratif aux soldats morts au combat. Et ce qui a échappé à personne, c'est que lui et son épouse, qui l'accompagnaient, portaient effectivement tous les deux un masque noir. Alors que la même journée, Donald Trump et la First Lady, Melania, sont eux aussi rendus dans des événements publics pour justement honorer la mémoire des anciens combattants, et eux autres ne portaient pas de masque. D'ailleurs, Donald Trump, c'est une caractéristique depuis le début de la pandémie, jamais en public on l'a vu avec un masque. Jamais, 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 jamais. Et évidemment, des médias conservateurs ont profité de l'occasion, et Donald Trump a retweeté certains de ces publications-là pour dire, ben, tu sais, voyez Joe Biden, à quel point, tu sais, il craint les choses, puis il veut pas faire de campagne de terrain parce qu'il portait un masque, etc. Alors, une autre façon d'essayer là, de taper sur le clou de Joe Biden.
Bon, on va lâcher un peu les États-Unis. Alors, voyez que ça va être une année importante, puis c'est pas terminé. Il y aura certainement d'autres frasques de Donald Trump. Entre-temps, je veux que tu me parles du Brésil un peu, Éric, parce que là aussi, il y a un personnage à la tête du pays qui est beaucoup critiqué, qui fait jaser, qui est hors norme, c'est Bolsonaro. Et au début de la COVID-19, c'en est un autre qui avait négligé un peu la maladie, qui avait tenté d'en diminuer en tout cas son importance. Et là, ça va pas bien du tout au Brésil.
Oh non, 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 non. Et je pense qu'on s'en était parlé de ça quelques semaines. Je t'avais dit, le Brésil à surveiller, c'est une véritable bombe à retardement. Parce que la pandémie est arrivée beaucoup plus tard en Amérique latine, et notamment au Brésil qu'ailleurs, en Chine, en Europe et même en Amérique du Nord. Sauf que tu parles du président Jair Bolsonaro, qui est le président brésilien. T'sais, il a effectivement, un peu comme Donald Trump au début, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on le surnomme le Trump des tropiques, ça vous donne une petite idée. Et il y avait effectivement une attitude plutôt désinvolte à l'égard de cette fameuse pandémie-là, laissait entendre que c'était qu'un simple rhume et de trucs de genre-là. Et bon, si ce n'était que ça, c'est tel que tel. Sauf que, non seulement Jair Bolsonaro a, dans un certain sens, banalisé, lui est dans le déni le plus complet depuis le début au sujet de la pandémie, mais en plus de ça, c'est que il fait tout pour essayer de miner les efforts de ceux qui, au Brésil, essaient justement de contrer la pandémie. Par exemple, Jair Bolsonaro multiplie, malgré la pandémie, malgré les avis de confinement, puis malgré la distanciation, continue à multiplier les bains de foule. On l'a vu encore, pas plus tard que la fin de semaine dernière, on l'a vu. Alors, il y a un certain nombre de ses partisans qui sont carrément fanatiques à son endroit, etc., qui se rassemblent régulièrement devant le palais présidentiel, et Bolsonaro a pris l'habitude d'aller les voir, de serrer les mains. De temps en temps, il porte un masque, des fois, il n'en porte pas, il prend des gens dans ses bras, etc. Bref, il fait tout le contraire de ce que son ministère de la Santé dit. Et non seulement ça, c'est qu'il mine également, parce que le Brésil est un État fédéral qui nous ressemble un peu, c'est-à-dire que t'as l'État fédéral ou l'autorité fédérale, puis t'as les États, l'équivalent de nos provinces à nous. Alors, les gouverneurs des États brésiliens, disons ça comme ça, eux autres ont adopté, dans certains cas, des mesures de confinement puis de distanciation, sauf que Jair Bolsonaro ridiculise les mesures qui sont prises par les gens dans les divers États brésiliens, en disant que ça tue l'économie, et patati patata, etc., et tout ça. Et au-delà de ça, il y a une véritable crise politique, au-delà de la crise sanitaire, puis de la crise sociale, il y a une crise également politique, parce que Bolsonaro a vu sa cote de popularité dégringoler au cours des dernières semaines en raison précisément de son attitude, et il y a une véritable crise politique parce que ces deux ministres de la Santé ont démissionné au cours des dernières semaines. Oh. Il y en a un qui a quitté en disant, regarde, moi, je ne peux plus rester ministre de la Santé si le président dit le contraire de ce que moi, je dis de faire aux Brésiliens. Alors, il l'a remplacé par un autre, et le deuxième ministre de la Santé n'a pas toffé plus que quelques jours. Lui aussi a décidé de quitter ses fonctions et de quitter son poste. Puis, on le voit, le Brésil est dans une situation où la pandémie progresse. C'est l'épicentre maintenant de la pandémie dans le monde, avec 400 000 cas 1000 décès et même plus par jour. Ils sont, en termes de nombre de cas, là, au deuxième rang maintenant, tout juste derrière les États-Unis. Et le pire est probablement encore à venir. Il y a des scientifiques, les autorités médicales, les scientifiques le disent. Jair Bolsonaro, le président brésilien, c'est la plus grave menace à la santé des Brésiliens à l'heure actuelle, davantage peut-être que le virus d'ailleurs.
Ouf! Merci beaucoup de nous avoir parlé, Éric. Merci.
Toujours un plaisir. Salut, Sylvain.
Bye, Éric Arsenault, notre expert en relations internationales, qui nous parlait du Brésil. C'est intéressant. Oui. Alors, on a un autre cas encore où quelqu'un, au départ, a tout nié, puis il n'y a rien là. Oui. Puis là, c'est rendu la pire place au monde. Ou à peu près, là, si j'ai bien compris les chiffres d'Éric, ça va pas bien du tout.
Que les cas sont beaucoup sous-estimés, les décès aussi, parce que il y a un pourcentage non négligeable de la population au Brésil qui vit dans les favelas, là, les fameux bidonvilles.
Ah, ben,
donc,
oui.
Penses-tu que les morts dans les bidonvilles sont comptabilisés dans les rapports du gouvernement?
Alors, situation donc très triste au Brésil. Et aux États-Unis, d'autres frasques de Donald Trump. Je veux pas en parler trop parce que je trouve ça intéressant d'en parler. C'est notre voisin, tout ça, puis bon. Et je veux pas non plus, moi, quand il fait des bons coups, je suis capable d'en parler, je suis capable de le dire, mais il fait des affaires des fois. Ce qui me fascine avec Donald Trump, et c'est quelqu'un de très brillant, là, c'est qu'à un moment donné, tu sais, je donnais l'exemple tantôt, admettons que Legault ferait ça, ou Trudeau, ou n'importe qui d'autre, Macron, nommez qui vous voulez, là, okay, qui est chef d'un pays, tu commences à dire d'un de ses adversaires, fausses accusations, ça a l'air que tu as tué une femme, ou relayer des informations comme de quoi la personne a tué une femme, c'est gros, là.
Mais il pourrait jamais.
Pensez-y, jamais, ni Boris Johnson, ni Macron, juste Trump peut faire ça et garder tous ses appuis. Et là, je sais que dans notre auditoire, il y en a qui l'aiment et qui l'appuient. Bon, justement, vous pouvez me répondre, là, 25-226. Lui, malgré tout, les gens, non, on l'aime encore. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'à un moment donné, il a tellement dit, je sais qu'il dit pas juste des mensonges, là, il dit aussi des vérités, mais il a dit des mensonges. Et il en a tellement dit que ses partisans, désormais, lui pardonnent tout. Il peut tout dire.
Mm-hmm.
Si c'est Trump, ça passe. Si c'était quelqu'un d'autre, ça passerait pas, là. Même aux yeux des partisans de Trump, quelqu'un d'autre ferait ça. C'est quelqu'un qui, en général, dit la vérité. Personne n'est parfait. Puis là, à un moment donné, il fait une frasque quelconque. Hey, c'est comme ça passe pas.
Mais
Trump,
menteur, puis
Trump, tout passe. Ils ont des excuses pour tout.
Mais oui, mais c'est parce que pour
tout. À un moment donné, tu deviens...
Pour une frange de l'électorat, Sylvain, Trump, c'est le sauveur, là, avec les fameuses théories du complot. Donc, Obamagate est une frange. Obamagate, en passant, il y a des articles qui ont été écrits là-dessus. Là. C'est une théorie du complot. Il n'y a absolument aucune preuve. C'est n'importe quoi. C'est simplement pour essayer de galvaniser l'auditoire trumpiste. Mais ça pogne de façon incroyable sur les médias sociaux. Là. Mais, tu sais, tous les gens qui croient en QAnon, tout ça, aux États-Unis, ils pensent que Trump, c'est un prophète, c'est un gars qui va sauver les États-Unis et le monde entier. Alors,
ouais, mais je pense qu'il y a juste les complotistes. Les complotistes,
non, c'est 35 millions à peu près aux États-Unis.
Non, mais
c'est pas énormément. Là.
Dans
c'est
les 10%. Partisans de Trump, je pense pas que c'est les histoires de complot qui expliquent tout, Jean-Simon. Moi,
non,
je pense
tout.
Que c'est plutôt ma théorie à moi. Parce que ces gens-là, c'est des gens brillants. Il y a des gens intelligents. Moi, j'en connais des auditeurs qui m'écrivent quand je parle de Trump. C'est des gens brillants, là, mais ils le défendent tout le temps. Tout le temps. Même quand il dit des mensonges, vraiment. Non, ils le défendent. Et je pense que c'est la haine des élites. Les élites, au cours des dernières années, notamment les élites médiatiques ou les élites commerciales dans l'économie, même en politique. Les élites se sont tellement déconnectées du peuple que quand Trump est arrivé, pour certains, c'était l'heure de la revanche. La revanche sur les élites, ceux qui nous regardent de haut dans les médias, dans l'économie, etc. Et à partir de là, ils ont fait de Trump leur défenseur. Puis, ils lui pardonnent tout.
Puis même le
là,
terme...
On pardonne tout à Trump, il a le droit de mentir, il a le droit d'attaquer, de diffamer, c'est pas grave. Je pense qu'il y a ça un peu derrière.
Puis même le terme partisan de Trump, moi je fais attention parce qu'il peut avoir un paquet de raisons dans la vie qui fait que tu votes pour telle personne au lieu de l'autre personne. Puis ça veut pas dire que t'es un partisan de ce politicien-là. Puis la raison pourquoi Trump est président des États-Unis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui vont lui pardonner tout. Puis t'as aussi une partie de la population américaine qui a voté pour lui et parce qu'il voulait pas Hillary Clinton comme présidente. C'est ça la vérité. C'est pas nécessairement des partisans de Trump.
Au début, t'sais? Elisabeth. Au début, t'as raison. Les gens qui ont voté dans l'élection avant qu'ils fassent toutes ces affaires-là, là, il y avait peut-être des gens que c'était juste parce qu'ils n'aimaient pas Clinton. Je te le donne. Mais aujourd'hui, t'en connais-tu beaucoup? T'as du monde qui dit « Ah, moi, Trump, des fois, je trouve qu'il a raison. Des fois, il exagère. Je le suis pas. » Moi, pas beaucoup. Moi, peut-être que c'est parce que les gens qui m'écrivent sont les plus crinqués. Moi, je connais des gens qui le détestent, d'ailleurs, des fois un peu trop, parce que tout ce qu'il dit, c'est mal. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est de la merde. Certains médias au Québec sont dans ce camp-là, d'ailleurs. Moi, je le vois. Puis, j'ai aussi du monde que, aussitôt que je parle contre Trump, c'est qu'il n'écoute plus, là. Puis, c'est trahison. Puis, voyons donc, Trump a raison tout le temps. Je vois très, très peu de modérés. Moi, c'est juste ça qui m'inquiète. C'est du monde que, ouais, ouais, Trump, arrêtez, là. C'est pas vrai que tout ce qu'il dit, c'est mal. Mais en même temps, voyez bien qu'il l'échappe des fois. Il est grossier. Et des fois, ça n'a pas de bon sens. Il y a des propos que, vraiment, qu'il faut dénoncer. J'en vois pas, puis j'en connais pas beaucoup. Peut-être que je me fie trop aux médias sociaux.
Ben, c'est parce qu'il est très polarisant, Sylvain. Puis ça dépend toujours comment tu le vois. T'sais, moi, personnellement, je me considère pas comme un modéré envers Trump. Moi, je suis fondamentalement anti-Trump, anti-Bolsonaro et ce genre de politiciens-là que je considère personnellement, puis mon opinion vaut celle des autres, personnellement dangereux pour la démocratie, personnellement. Alors, je comprends qu'il polarise comme ça. Moi, je pense qu'un individu comme ça, pas tous ceux qui ont voté pour lui, il y a plein de circonstances, mais je pense que ces individus-là nous rappellent des événements fâcheux de notre histoire. C'est des gens qui ont surfé sur une frustration, sur de la peur. On voit ce qui se passe aussi avec Viktor Orban du côté de la Hongrie. Ça, c'est un repli sur soi. C'est des mesures dangereuses pour la démocratie, à mon sens, d'autoritarisme.
Tu peux être un anti-Trump, comme d'autres peuvent être pro-Trump, puis d'autres peuvent être un peu comme moi, entre les deux, puis en tout cas, bon. Mais si t'es un anti-Trump, Jean-Simon, et t'es incapable de reconnaître certaines qualités ou certains bons coups, tu contribues au problème.
Ça, t'as raison.
Excuse-moi de te le dire de même, mais tu contribues au problème, parce que les gens qui aiment Trump, là, vu que toi, si tu le détestes trop, puis tout ce qu'il dit, c'est pas bon... En quelque part, tu donnes un peu raison aux pro-Trump qui vont dire « Regarde, les élites ou le monde des médias, vous êtes biaisés, vous n'êtes pas capables de dire du bien de Trump. » J'en appelle, moi, à une certaine forme de modération. Pas modération, mais dans le sens que, écoute, être capable de dire un peu, évidemment, ça va varier d'un individu à l'autre selon ses valeurs, je sais ça, mais des fois, quand c'est bon ou quand c'est pas bon. Et moi, je vois dans la sphère, peut-être trop un peu médiatique aux réseaux sociaux, qu'il y a les pro-Trump qui lui pardonnent tout. Puis les anti-Trump qui le condamnent sur tout, ben parlez-vous entre vous autres, parce que vous vous aidez beaucoup, là. Vous vous donnez des arguments l'un l'autre, là. Hein? Toi, t'es biaisé, on sait bien. Ben, toi, t'es un crinqué puis un fanatique. Toi, t'es...
Mais les extrêmes, c'est jamais bon dans tous les cas, de toute façon, parce que les extrêmes vont alimenter les extrêmes.